Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, nous allons prendre un passage qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20. Alors, nous allons prier pour remettre ce moment. Oui, Père Céleste, nous avons besoin de toi en toute occasion. Seigneur, tu es avec nous et nous pouvons nous appuyer sur toi. Seigneur, ta parole est la vérité, elle nous sanctifie. Donne-nous de la comprendre et surtout de la mettre en pratique pour pouvoir la partager aussi. Et Seigneur, merci pour nous donner ce que nous avons besoin par ton Saint-Esprit. Parle à chacun, fortifie chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous lirons, pour commencer, Matthieu 28, 16 à 20. Alors, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Hein, c'est juste après, et donc, il parle à ses disciples. Hein. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors ici, nous voyons que le Seigneur donne à ses disciples l'obligation même, hein, c'est un ordre, hein, c'est en même temps aussi c'est une prophétie, c'est-à-dire que vous allez aller. Et il dit donc d'annoncer la bonne nouvelle. Et vous voyez ici, il est dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que on annonce la bonne nouvelle et puis on fait des disciples en les baptisant. Donc c'est important de penser que une étape qu'il faut suivre, un commandement qu'il faut écouter, c'est croire que Jésus est mort pour nos péchés. Quand on l'a cru, on doit se faire baptiser. Alors c'est vrai que autrefois on baptisait tout de suite, hein. Il n'y avait pas de problème. Ça coûtait beaucoup de se faire baptiser parce que c'était aux yeux de tout le monde. Hein. Ce n'était pas un endroit caché ou là où il y avait de l'eau. Alors, il y avait peu de piscines privées, il y avait peu d'endroits où il y avait beaucoup d'eau, mais dans la rivière, etc., dans le lac. Eh bien, on devait témoigner en plein air à tout public à quiconque passait par là et qui peut-être n'appréciait pas notre témoignage. Donc à l'époque, c'était un engagement. Et donc c'était quand même quelque chose de difficile si on était timide ou si on hésitait pour une raison ou une autre. Hein. La famille. Vous vous rappelez que certains avaient peur d'être exclus de la synagogue. En fait, c'était ça qui menaçait les juifs ici, hein, parce que c'est tous des juifs ici. Et donc, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je crois que c'est important pour un chrétien de passer par cette étape. Je me rappelle quand j'étais jeune, que j'ai cru, je me suis posé la question, mais j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Et là, je suis dans une église baptiste et on me demande de me faire baptiser. Enfin, vous ne le demandez peut-être pas, mais j'avais compris. Et donc, est-ce que je devais me refaire baptiser ? Et puis j'ai compris que c'était pas un baptême que j'avais reçu quand j'étais petit, c'était une aspersion, c'était une autre signification, c'était des mots différents. Et donc, là, c'était le baptême de celui qui avait cru par immersion. Et donc, après avoir réfléchi, oui, non, pourquoi, eh bien, j'ai compris que vraiment, il fallait le faire. Et donc, de nos jours, il y a le temps de la réflexion, mais c'est un temps qui doit venir si on est chrétien. Et c'est important de passer le cap, si on peut dire. Quand on croit, on doit se faire baptiser. Sinon, eh bien, on reste un peu comme un enfant qui n'ose pas aller plus loin, qui redouble ses études et qui a besoin d'être affermi. Alors, c'est ce que nous dit un peu ce passage. Et faire des disciples. Des disciples, c'est ceux qui suivent Jésus en comprenant sa parole, en suivant les enseignements de sa parole et en mettant en pratique. On ne peut pas être un disciple si on laisse de côté la parole de Dieu. Déjà, on connaît Jésus que par la parole de Dieu et ses enseignements, c'est la parole de Dieu. On peut trouver des enseignements qui se rapprochent de la parole de Dieu, mais finalement, ce n'est qu'une morale, une philosophie, avec des bons sentiments, vraiment qui se rapprochent de la parole de Dieu. Mais en fait, c'est la parole de Dieu qui nous conduit par le Saint-Esprit qu'on a reçu quand on a cru. Et cette parole, elle doit être précieuse. Elle doit être dans notre cœur. Peut-être qu'on oublie quelque chose de très important, hein, c'est que autrefois, il n'y avait pas des Bibles qui circulaient comme ça. Chacun avait sa Bible, son rouleau. C'était quelque chose de difficile d'avoir la lecture personnelle. Il fallait aller à la synagogue, il fallait entendre par le rabbin, par le chef de la synagogue, le scribe. Et aujourd'hui, moi je ne sais pas où mettre mes Bibles. Je veux dire, il y a un rayon, Bible, mais il y a un autre endroit où il y a des Bibles. Alors, les différentes traductions, les différentes langues, les écrits originaux, l'hébreu, l'Ancien Testament, le grec, du Nouveau. Et finalement, je vais dans un coin, je trouve une Bible, je vais dans un carton, je trouve une Bible. Je crois que chez vous, peut-être c'est pareil. Hein. Eh bien, à l'époque, c'était serrer la parole dans le cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. C'était écouter l'enseignement. Cet enseignement que les Juifs recevaient et qu'ils devaient lire chaque fois, qu'ils partaient en voyage, qu'ils allaient à droite, qu'ils allaient à gauche, chaque fois ils devaient lire la loi. Il était important que Israël puisse connaître la parole de Dieu. Et finalement, tout à l'heure, on a vu qu'Israël a péché, mais en fait, il s'est détourné de la parole de Dieu, a oublié tout ce que Dieu a fait. Car quand on lit la Bible, on voit ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut, et ce que Dieu veut qu'on en fasse, nous. Et donc, il est important de connaître la parole de Dieu, et il est important, eh bien, justement, quand on annonce l'évangile, quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, de le former par la parole de Dieu et l'encourager à lire la parole de Dieu. Parce qu'en fait, justement, c'est là que l'enfant qu'il est va devenir un adulte spirituel. Et sinon, c'est comme dans la vraie vie, hein, on dit que tout s'apprend au début, dans les premières années. Et si un nouveau-né chrétien oublie de s'affermir dans la parole de Dieu, si en fait ceux qui l'ont amené au Seigneur ne l'enseignent pas, ne font pas un disciple de lui, eh bien, on ne sera pas étonné que des années plus tard, ça aille mal, qu'il se détourne, qu'il se relâche, qui s'attiédissent et que finalement l'œuvre commencée ne porte pas beaucoup de fruits. Alors là, bien, le Seigneur met l'accent sur cela. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et faites des disciples. Alors, on va poursuivre. Donc, on voit que c'est un commandement et on voit que le Seigneur le dit comme quelque chose d'essentiel, hein. Annoncer l'évangile, faire des disciples en les baptisant. Alors, lisons un autre passage dans Acte 1. Alors là, je lirai les versets 1 à 11. En fait, c'est aussi juste avant que le Seigneur s'en aille. Donc, ce sont des paroles essentielles comme le Nouveau Testament qui commence. C'est à ce moment-là que le Seigneur dit, voilà ce qui est important, et maintenant, je m'en vais, à vous de jouer. À vous de jouer. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et par le Saint-Esprit, c'est à votre tour d'agir. Alors lisons un peu ces 11 versets. Donc c'est Luc qui parle et qui a écrit ici, et qui a écrit une lettre à Théophile pour lui montrer ce que le Seigneur a fait. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, l'Évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, nous avons de la part du Seigneur, nous chrétiens, la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Et finalement, on peut constater en lisant le livre des Actes, en lisant le Nouveau Testament, en lisant l'histoire de notre civilisation, l'histoire de l'Église, que eh bien, les chrétiens l'ont fait. Alors, surtout les premiers chrétiens, ceux qui avaient reçu directement ce commandement. Et donc, ils l'ont annoncé à Jérusalem, à Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on dit souvent qu'ils ont eu du mal à obéir, et qu'ils se trouvaient bien à Jérusalem, et que finalement, ils ne voulaient pas aller plus loin. Mais là, moi, je ne le pense pas. Hein. Si vous lisez le livre des Actes, si vous calculez un peu les années passées, c'est comme si on nous demandait aujourd'hui de partir dans 3-4 ans, dans 5 ans. Si on nous disait, dans 5 ans, vous n'êtes plus là. Ah bon ? Il y avait tout ce qu'on a fait comme travaux et tout ça. Ce serait difficile. Alors, à l'autre salle, on a tenu 50 ans. On n'a pas eu de persécution. Mais en fait, je pense, pour résumer, je pourrais donner des détails, mais en fait, juste la persécution les a aidés à annoncer l'évangile ailleurs. Mais les apôtres, ils sont toujours retournés à Jérusalem. Et il y avait une église. Et puis, ce sont d'autres qui ont annoncé l'évangile. Et puis, c'était Paul, l'apôtre des païens, qui annonçait l'évangile aux païens, et Pierre et les autres aux juifs. Et donc, de temps en temps, ils s'entrecroisaient, mais chacun sa mission. Mais ça a été fait. Puis, nous voyons que, en fait, c'est toujours quand on est persécuté que l'on agit le mieux, qu'on ne s'embarrasse plus de quoi que ce soit, et que finalement on annonce l'évangile. Et c'est ce qui s'est passé pour les premiers chrétiens. Hein. Ils ont été persécutés, et au lieu de diminuer, eh bien, ils ont multiplié. Et c'était merveilleux. Alors, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans Jean 7. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit quelque chose pour ceux qui croiraient en lui. Alors ça, c'est important parce que on pourrait penser que les apôtres, c'était des supermen. Je parle en anglais maintenant. Super-hommes. Et donc, ils étaient exceptionnels en tout point. Mais finalement, c'était des hommes comme nous. Mais voilà ce que le Seigneur a dit. Alors, Jean 7, 37 à 39. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Hein. Attendez, leur dit le Seigneur, vous allez recevoir le Saint-Esprit et ce sera une puissance sur vous qui va vous aider à annoncer l'Évangile, à être mes témoins partout. Alors, pour chacun de nous, ce n'est plus ce qui se passe à la Pentecôte, mais c'est ce qui se passe quand on croit au Seigneur. Quand on devient chrétien, eh bien, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est comme des fleuves d'eau vive. C'est quelque chose de merveilleux qui se passe parce qu'on bouillonne d'annoncer l'Évangile, on bouillonne de faire connaître le Seigneur Jésus. Voilà, le Seigneur Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Le Seigneur Jésus qui est mort pour moi, il est ressuscité, il habite dans mon cœur. Il fait de mon cœur, de ma personne, son temple. Eh bien, on a envie de le partager. C'est tellement vrai que on a l'impression que les autres le voient, que c'est pas la peine d'en parler, même si. Mais alors, ça déborde tellement qu'on le dit. Et puis, si les autres ne le voient pas, on dit mais oui, regarde. Et on insiste, on veut vraiment que les autres connaissent la joie, le bonheur qu'on a d'avoir rencontré le Seigneur. Il s'est passé quelque chose. Et donc, quand on devient chrétien, des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Et c'est le Saint-Esprit en nous. Alors, que nous demande le Seigneur? Eh bien, comme aux apôtres, comme aux premiers chrétiens, d'annoncer la bonne nouvelle. Et les chrétiens ne doivent jamais oublier leur mission principale, d'annoncer la bonne nouvelle. Si nous voyons certaines églises qui meurent, on parle de nos frères les protestants, et on voit d'autres églises, on voit qu'ils ont une histoire, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié d'annoncer l'évangile, de faire des disciples. Ils ont oublié cette bonne nouvelle qui est une mission que chacun doit poursuivre. Ce n'est plus, mais voilà, On a une belle église parce que nous sommes, je sais pas, une quarantaine. Eh bien, c'est bon, 40, c'est bien. Eh bien, non. Si on reste 40, eh bien, on va diminuer. On va diminuer. Donc, comme toute église qui n'annonce pas l'évangile, tout chrétien qui n'annonce pas l'évangile, eh bien, il va se passer quelque chose. On pourrait dire une mort lente ou alors une mort rapide. Mais voilà ce qui se passe quand on oublie que le Seigneur continue de compter sur nous pour qu'on annonce l'évangile. Alors, jusqu'à quand? Eh bien, Matthieu 24, 14 dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors là, on voit bien que c'est non seulement un commandement, mais une prophétie. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Et après viendra la fin. Et que dit Marc, chapitre 13, verset 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et après, le Seigneur va revenir. Et donc, c'est ça qui est important pour chacun de nous, d'annoncer l'évangile, et puis pour notre Église. Alors, seule l'Église qui est fidèle peut le faire. Alors, vous pouvez aller dans certaines églises, je dis protestantes, en fait, je voyage pas trop dans les églises pour voir où c'est que chaque église en est. Mais finalement, c'est l'église qui est fidèle, qui peut le faire et le fera jusqu'à la fin. Le Seigneur va utiliser l'église qui veut annoncer l'évangile jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, j'aimerais rappeler l'évangile. Alors, ce qui est bien, c'est que Paul nous a laissé un résumé en quelques versets, 1 Corinthiens 15, 1 à 5. Et là, on voit que c'est pas tellement compliqué d'annoncer l'évangile. Alors, il est dit, 1 Corinthiens 15, 1 à 5, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Est-ce que vous l'avez cru? Qu'il a été enseveli. Est-ce que vous l'avez cru? Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Est-ce que vous l'avez cru? Eh bien, voilà l'évangile. Et qu'il est apparu à Cephas, puis aux 12. Et voilà la mission. Ce qu'ils ont vu, ils l'annoncent. Ce que nous avons reçu et cru, nous l'annonçons. Alors, c'est ça l'évangile. Quelquefois, j'ai l'impression que j'ai annoncé l'évangile à quelqu'un, et puis finalement, je ne l'ai jamais annoncé. Je lui ai parlé de ceci, de cela. Je lui ai parlé de... peut-être de Jésus, mais dire qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour lui, pécheur, et que maintenant, il peut venir à lui pardonner. Quelquefois, je me dis, ah, mais j'ai pas dit exactement ce petit évangile qui tient en quelques lignes et qui est une réalité puissante. Si je veut que quelqu'un soit sauvé, il faut que je lui annonce l'évangile. Je peux lui parler de beaucoup de choses de la parole de Dieu, mais c'est l'évangile qu'il doit entendre. Et rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de livres à donner, mais il y avait des paroles à dire. Et donc, c'était ce qui avait transformé leur vie qu'ils donnaient à recevoir aux autres. C'était leur témoignage. Et donc, c'est ça l'évangile, et que Paul rappelle la bonne nouvelle. Alors, tous les hommes sont pécheurs et séparés de Dieu? Oui. Nous sommes tous morts spirituellement? Oui. Et nous mourrons aussi physiquement? Heureusement. Heureusement que nous mourrons tous physiquement. Vous imaginez un peu Adam et Ève, qui ne meurent jamais après avoir péché, et leurs enfants. On aurait des milliards d'hommes pécheurs qui aiment le péché et qui, eh bien, la terre deviendrait un enfer. Heureusement que Dieu a gardé l'arbre de vie pour que les hommes n'aillent pas vivre éternellement. Heureusement que l'homme meurt. Mais grâce à Dieu, Dieu va redonner la vie à nos corps mortels un jour. Dieu nous donne la vie spirituellement maintenant. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ce que fait le Seigneur. Et c'est son plan. C'est merveilleux. Alors, Dieu dans son amour a envoyé son Fils. Voilà ce qu'on peut dire. Le monde est mauvais. Il y a des injustices. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des gens qui meurent très vieux. Alors que les enfants meurent à un âge où on dit qu'ils avaient l'avenir devant soi. On se dit, ah, quelle injustice. Mais voilà, le Seigneur vient pour changer les choses. Et il va commencer par notre cœur, par votre cœur, par celui qui est éloigné de lui. Il va le rapprocher de lui, il va le transformer à la ressemblance de Jésus. C'est merveilleux. Et donc, c'est cette bonne nouvelle que nous annonçons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voilà, alors ça c'est merveilleux, c'est une promesse merveilleuse du Seigneur. Alors, maintenant que nous appartenons au Seigneur, eh bien, nous cherchons à faire ce qui lui plaît. Et on peut dire qu'on est content de connaître le Seigneur et de lui appartenir. Est-ce que nous nous souvenons d'autrefois, notre vie, avant de le connaître? Quels fruits portions-nous, comme dit l'apôtre Paul, je crois. C'est une vie qui aurait pu aller dans des sommets ou alors des bas-fonds terribles, mais dans le péché. Alors des sommets peut-être selon ce monde, mais des vies de péché. Et donc, peut-être que en nous souvenant ce que nous étions, ce que nous aurions pu devenir sans Christ, combien peut-être aussi nous étions durs, eh bien, nous pouvons penser à toutes ces âmes qui meurent sans Christ, penser qu'elles sont dures peut-être, mais c'est nous qui devons leur annoncer l'Évangile, c'est personne d'autre, et que comme nous avons eu besoin de Christ, eh bien, elles aussi, ces âmes que nous côtoyons, ont besoin de Christ. Et c'est nous que le Seigneur veut utiliser pour qu'elles entendent l'Évangile. Alors, annonçons l'Évangile jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, quand j'étais jeune chrétien, peut-être même pas baptisé, je suis allé dans un camp de vacances chrétiens, où il y avait beaucoup de jeunes. C'était à La Rochelle. Alors c'était mon premier camp. Hein. Et nous étions très nombreux. Hein. Je connaissais personne. Bon, à part la personne qui était venue, avec qui j'avais été. Et finalement, plus tard, je les ai rencontrés à droite, à gauche, dans les instituts. En fait, c'était merveilleux de voir plein de jeunes, comme moi, à l'époque. Et donc, ça, je crois que ça a duré 2 semaines. Et pendant tout le séjour à La Rochelle, on était dans un camping, hein, on a évangélisé les quartiers, il y avait des réunions, il y avait ceci, cela, du porte-à-porte. Hein, et on n'a pas arrêté. Et un jour, on est allé dans un endroit que je ne connaissais pas. Et je crois que c'est là, parce que je peux me tromper, mais je vieillis, j'oublie mes souvenirs. Mais on m'a dit, vas-y, crie l'Évangile. Alors on était dans un quartier, il y avait des tours à à 40 mètres. Et on était un groupe, on avait chanté pour attirer les gens. Et puis il y en a un qui me dit, vas-y. Moi, je n'avais jamais fait. Il me dit, annonce l'évangile. Bon, ben, j'ai dit, ben ouais, ben, allez, bon. Et puis j'ai commencé à crier, hurler. Je crois que j'ai jamais hurlé dans ma vie comme ça. Depuis, j'ai une grosse voix. Mais alors, j'ai crié l'évangile, j'ai annoncé, j'ai. Et puis, tout mon corps tremblait tellement c'était fort. Parce que je voyais que c'était loin. Et il y avait les tours et tout. On était dans un parking, une cour. Et puis alors après, il y a des gens qui sont descendus. Deux, trois, quatre. Ouais. Et puis hop, après on a témoigné. On a dit, oh, ben, on va faire une réunion, venez, là, on fait ceci, là. On annonce l'évangile, voilà. Et alors, ça... Je crois que ça m'a aidé à lancer l'évangile, de faire quelque chose comme ça, publiquement, parce que eh bien, ça enlevait ma timidité. C'était comme si j'avais reçu un ordre et je ne pouvais pas désobéir. Mais finalement, quand on regarde bien, c'est l'ordre que le Seigneur nous donne et nous ne pouvons pas désobéir. Chacun de nous, on doit annoncer l'évangile d'une manière ou d'une autre. Alors, pendant ce séjour-là, dès le début, on avait un petit livret avec des questions et on nous a donné un passage à étudier par cœur et on le réciterait à la fin des 15 jours. Alors je vais vous lire ce passage. Alors, à une époque, je le connaissais par cœur, hein, puisque j'ai dû l'apprendre. Donc c'est 1 Corinthiens 9, 16 à 27. 1 Corinthiens 9, 16 à 27, c'est Paul qui parle. Hein. « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alors, voilà ce que disait Paul. C'est se faire tout à tous. C'est se mettre à la portée des autres pour pouvoir leur annoncer convenablement l'évangile sans qu'il y ait d'obstacle à leur foi, sans que nous soyons nous une pierre d'achoppement pour une raison ou une autre. Et Paul était juif avec les juifs et se comportait d'une manière adéquate avec ceux qui étaient des païens et qui avaient une religion bien différente de la sienne. Alors, je me rappelle d'avoir lu la biographie de Hudson Taylor, et peut-être vous l'avez lu aussi, vous le connaissez. Hudson Taylor, il a été appelé à aller en Chine comme missionnaire. Et à l'époque, donc, il y a plus d'un siècle, hein, et donc, les missionnaires se contentaient d'évangéliser le plus facile, c'est-à-dire la côte. Ils arrivaient en bateau, ils s'installaient, hop, Et ils évangélisaient la côte. Alors, c'était un long territoire. Hein. Il y avait du travail. Mais ils se cantonnaient là. Et alors, pour Hudson Taylor, quand il est venu, il a dit, ben, on va aller à l'intérieur de la Chine. Et finalement, ça a donné la mission à l'intérieur de la Chine. Mais il y a quelque chose aussi qu'il a fait que les autres missionnaires ne faisaient pas, c'est qu'il s'est habillé comme les Chinois. Et il a laissé pousser aussi la tresse. Et les autres missionnaires se moquaient de lui. Même, il a été persécuté dans ce sens. On disait, qui c'est celui-là, hein. Et finalement, il s'est mis à la portée des Chinois. Et ils ont reçu l'évangile et beaucoup de missionnaires sont venus et ont annoncé l'évangile à l'intérieur de la Chine. Et il y a eu une multitude de Chinois sauvés. Et on peut dire peut-être que si aujourd'hui il y a des Chinois qui sont sauvés, c'est un peu grâce à lui. Alors, il s'est fait comme l'un de ceux à qui il voulait annoncer l'évangile. Alors, c'est ça que Paul aussi faisait. Alors, pour chacun de nous, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour annoncer l'évangile? Est-ce que nous sommes prêts à tout, par le Saint-Esprit, à faire ce qu'il nous paraît impossible, mais pour que cette bonne nouvelle puisse percer dans les cœurs? Alors, les apôtres et les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, étaient 120 réunis. Eh bien, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour même, ils étaient déjà 3000. Vous vous rendez compte? On fait un bâtiment pour 120, on se retrouve à 3000. Alors là, c'est embêtant, peut-être, mais c'est merveilleux. Eh bien, c'est ce qui s'est passé le jour même. Alors, on va voir quelques versets de leur emploi du temps. Alors, acte 2. Verset 41 d'abord. Acte 2, 41. Voilà ce qu'il est dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, baptisées. Ensuite, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce qui s'est passé. Et ils furent persécutés. Et alors, on peut voir encore leur emploi du temps au chapitre 5. Versets 40 et 42. Alors, ils ont été mis en prison, jugés par un Sanhédrin. Alors, ceux qui les jugent disent... Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et au verset 4 du chapitre 8, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Si nous étions persécutés, c'est ce que nous ferions. Nous irions nous réfugier dans le Seigneur, nous prierions sans cesse, ensemble, peut-être cachés, et en fait cela porterait du fruit, comme on l'a vu dans l'histoire, tous les chrétiens qui ont été persécutés se sont multipliés. Alors, de nos jours, eh bien, il y a tellement de choses qui nous empêchent d'aller à l'essentiel. On perd beaucoup de temps au lieu d'aller à l'essentiel. Eh bien, quand on est persécuté, on se cache, on prie et on témoigne de notre foi. Et le Seigneur multiplier l'église. Alors, moi je ne veux pas de persécution, mais je veux agir en conséquence, comme peut-être à la Pentecôte. En fait, le Seigneur dit, quand deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il n'y a rien de plus difficile de mettre d'accord deux personnes. Ça a l'air facile, mais non. Même deux personnes les mettre d'accord, c'est une œuvre que seul Dieu peut faire. Et si on se met d'accord déjà à deux, eh bien, si on est en communion pour prier la même chose, eh bien, le Seigneur va exaucer. Et tout peut arriver. Bien sûr, il faut être en communion avec le Seigneur. Alors, je dirais, ben, faisons-le avant d'être persécuté. Alors, autrefois, quand j'annonçais l'évangile, je ne me sentais pas capable d'aller trop loin, quoi. Alors je me disais, ben, je vais les amener dans la réunion de jeunes, et là, comme finalement on dit, ça va le faire. Hein. C'est-à-dire que je savais que quand ils viendraient dans la réunion, il se passerait quelque chose parce qu'il y avait une grande et belle communion. Et c'est vrai qu'il se passait quelque chose. Et donc, c'est peut-être parce que moi-même, je me sentais faible, mais je savais que j'avais des frères forts. Ou plutôt, qu'ensemble, on était forts pour amener quelqu'un parce que, eh bien, d'un même cœur, d'une même voix, eh bien, on annonçait l'évangile et on était rayonnant de joie. Alors, voilà ce qu'il convient de faire. Peut-être vous connaissez Ralph Challis. Il a écrit plusieurs livres. Puis c'était aussi un évangéliste, pasteur, missionnaire. Et lui, il décrit l'Église comme une cellule vivante. Alors, elle doit se multiplier. Voilà. Et donc, à un moment donné, il était en Algérie. Et c'était avant la guerre. Alors peut-être, j'aimerais lire son témoignage. Hein. Ah, c'est un témoignage personnel. Hein. Alors, ça s'appelle le calcul. Hein. Alors, il dit, je pense à une expérience que j'ai faite autrefois en Afrique du Nord. En tant qu'envoyé de Jésus-Christ, je me suis trouvé confronté, presque seul avec ma femme, à une population d'un demi-million d'habitants. Tous les quartiers sud de la ville d'Alger, que personne n'évangélisait. Je savais que Dieu me considérait redevable de chaque être humain dans cette vaste agglomération. Mais comment faire pour les atteindre tous? Comment effectuer un impact sur une région où l'ignorance du vrai Christ et de la Bible était presque totale? Avec ce gros fardeau sur le cœur, je priais seul un jour dans mon petit bureau. Je l'appelle bureau, mais c'était en réalité un poulailler, sans les poules, car nous étions très pauvres. Lorsque Dieu m'a accordé une inspiration. Prends un crayon, me disait-il, et fais d'abord ce calcul. Supposons que tu es un évangéliste très efficace, au point de gagner une centaine d'âmes à la fois cette année. Combien de temps te faudrait-il pour convertir ce demi-million d'âmes qui sont devant toi? Toujours à genoux, j'ai fait mon calcul. Si je gagnais 100 âmes par an, et cela me paraissait énorme, je mettrais 10 ans pour gagner 1000 âmes. Je me disais que cela n'était pas mal. Mais Dieu me poussait à continuer mon calcul. J'ai découvert que pour gagner un demi-million d'êtres humains à la fois, il me faudrait non moins de 5000 ans. Alors que la population du monde se multiplie à une telle allure que ce chiffre ne signifie plus rien. Toujours à genoux devant Dieu, j'ai compris que je devais refaire ce calcul. D'ailleurs, je ne me croyais pas de taille pour gagner 100 âmes par an dans une situation semblable. Je savais seulement qu'avec le courage que Dieu me donnait, je pouvais au moins évangéliser les gens peu à peu. Bon, me disait le Seigneur, disons que tu vas évangéliser sérieusement au moins une personne par jour, et je faisais déjà plus. N'as-tu pas assez de foi pour me croire capable de sauver au moins une de ces 365 personnes que tu toucheras au cours de cette année? Sans cela, où est ta foi à mes promesses? Je contestais, Seigneur, c'est trop modeste. À cette allure, on n'achèvera jamais rien. Mais il m'a répondu, la différence, c'est qu'au lieu de convertir simplement une centaine de personnes, tu fais de ce seul enfant spirituel que je te donne ton ami intime. Ta maison et ton cœur lui sont ouverts, tu pries constamment avec lui, tu l'enseignes, tu lui apprends la lecture et l'étude sérieuse de ma parole, et tu continues à évangéliser d'autres âmes jour après jour. Bientôt, il voudra se joindre à toi pour en faire autant, et vous serez alors deux à le faire. Vous ferez équipe. L'évangélisation est plus facile et plus efficace à deux. Au bout de la deuxième année, vous aurez pu évangéliser sérieusement à vous deux. 365 multiplié par 2 égale 700 ou 800 personnes. Votre petite foi vous aura aussi permis d'avoir chacun un nouvel enfant spirituel. Cela signifie qu'au bout de 2 ans, vous serez déjà 4 croyants. Cela me paraissait encore excessivement lent comme progrès. Mais Dieu n'a pas arrêté de faire pression sur mon cœur. Continue, dit-il. Le plus important maintenant, c'est que ces nouveaux croyants reçoivent la même éducation spirituelle que celle que tu auras accordée au premier. Ensemble, pendant l'année suivante, vous leur communiquerez la même vision, la même qualité de vie spirituelle, le même dévouement, la même puissance, la même motivation. Un amour absolu pour Christ, pour ses frères et pour les âmes perdues. L'essentiel, c'est que chaque année, les nouveaux frères et sœurs comprennent ma parole et connaissent ma présence dans leur relation. J'ai continué mon calcul. Au bout de 3 ans, nous sommes 8. Au bout de 4 ans, nous sommes 16. Au bout de 5 ans, nous sommes 32. Dans 6 ans, 64. Oh, mais c'est encore trop lent, me disais-je. Car même l'évangéliste classique avec ses 100 conversions par an fait mieux que cela. Mais l'Esprit de Dieu m'a répondu, continue ton calcul. À condition donc de maintenir la même allure modeste d'une âme gagnée chaque année, par chaque croyant, on arrive à la conclusion que dans 10 ans, il y a 1000 âmes qui ne sont pas seulement nées de nouveau, mais qui sont devenues de véritables disciples de Christ, avec une connaissance approfondie des Écritures, une vie de prière puissante et une grande efficacité dans leur témoignage. Pour tout combler, elles ont compris la pensée de Jésus au point de connaître sa présence au milieu d'elles, dans toutes leurs relations et leurs activités, comme dans leurs témoignages à l'extérieur. Toujours à genoux dans mon poulailler, j'ai poursuivi ma petite étude, à condition de doubler seulement le nombre des disciples d'année en année, ce qui est sûrement la cible la plus modeste que l'on puisse viser. J'ai calculé qu'au bout de seulement 19 ans, un demi-million de personnes seraient amenées à la foi en Christ pour devenir à leur tour des gagnants d'âme. J'ai fait la découverte stupéfiante qu'au bout de 30 ans, il y aurait plus d'un milliard de chrétiens dans le monde, et au bout de seulement 33 ans, plus de 8 milliards. J'en suis resté bouleversé. Le calcul que je venais de faire n'était pas fondé sur une idée absurde ou irréalisable. Je m'arrête là, mais il a réfléchi, dit que si en plus il y a au moins 10 millions de chrétiens dans le monde, eh bien là, ça fait que dans 9 ans, toute la population du monde serait devenue chrétienne. Et il sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais il a mis en pratique tout cela, et quand il est parti d'Algérie à cause de la guerre, il y avait 100 000 personnes qui avaient déjà été évangélisées. Il y avait des 16 endroits où les chrétiens se réunissaient. Il y avait chacun qui avait reçu la parole avait témoigné à son tour. Et c'est la guerre qui a arrêté l'œuvre en Algérie, mais elle s'est poursuivie aussi par ceux qui sont partis d'Algérie, par ceux qui sont devenus chrétiens, des autochtones. Et donc, voilà en fait ce que le Seigneur nous demande à chacun, hein, c'est d'être fidèle et d'annoncer l'Évangile. Alors, être des disciples, c'est l'important. En étant baptisé, en étant fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu, donc cela implique des enseignants, cela implique qu'on lise la parole de Dieu, qu'on la mette en pratique aussi. Et finalement, pour annoncer l'Évangile, les moyens peuvent être multipliés, multiples, variés. C'est de nos jours, on a Internet. Alors, on peut utiliser Internet. Autrefois, on avait reçu Odon, je ne sais plus son prénom. Daniel. Hein. Donc, lui, il avait son multilingue pour évangéliser dans les camps de réfugiés. C'est merveilleux. On a tous apprécié cette méthode. En fait, on pourrait dire, trouvons chacun notre moyen d'annoncer fidèlement l'évangile. C'est l'évangile que nous avons prêché, mais les moyens peuvent être nombreux. Et bien sûr, qui ne peut pas évangéliser une personne cette année? Et peut-être, justement, évangéliser, et faire au moins un disciple. Et le résultat, eh bien, sera extraordinaire. Alors, Dieu cherche des hommes et des femmes, des églises fidèles, pour annoncer l'évangile, pour que des âmes soient sauvées. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Proverbe 18, 4. Pour que nous ayons du succès dans notre annonce de la bonne nouvelle, mais soyons en communion personnelle avec le Seigneur, soyons en communion avec les autres chrétiens, ça c'est l'unité, c'est l'amour qui se manifeste, c'est ce qui montre que on est un en Christ. Et puis prions, c'est important de prier, ça ne suffit pas d'être juste des témoins, mais prions par le Saint-Esprit. Annonçons l'Évangile. Et surtout, faisons des disciples et qu'on puisse les enseigner à mettre en pratique la parole, à devenir des disciples accomplis. Et donc, nous pouvons réussir notre mission si nous le voulons. Le Seigneur veut nous utiliser. Alors, on va prier.